D'accord, merci, merci beaucoup. Alors, d'abord je vous prie de m'excuser pour ma voix. Et je viens donc un peu en service commandé. Hein. On m'a dit donc que cette année le séminaire était sur le bonheur. Certains d'entre vous donc m'ont demandé de réfléchir à cette question du bonheur à partir de ce que je connais, c'est-à-dire de la tradition philosophique. Je ne dirai rien du bonheur dans le judaïsme. J'espère qu'on pourra trouver un temps pour la discussion où on confrontera ce que vous avez trouver, travailler durant ce séminaire avec certaines thèses que je vais vous exposer. Et je vous dis comment j'ai construit cet exposé. Donc je vais partir de la notion de bonheur chez les Grecs, dans la Grèce ancienne. Et pour ça, je vais m'appuyer sur Aristote, en fait, sur l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Pourquoi sur Aristote plutôt que sur Platon ou sur d'autres d'ailleurs? Parce que l'éthique à Nicomaque d'Aristote, d'abord c'est une systématisation très rigoureuse des idées aristotéliciennes bien sûr, mais aussi des idées grecques au sens plus large, puisque Aristote le dit lui-même dans le fil de sa démonstration. Ce qu'il va nous dire du bonheur dans l'éthique à Nicomaque correspond ou valide les opinions courantes dans la Grèce ancienne sur cette notion. Alors, je parlerai d'Aristote et je ferai un long, à la fois très long et très rapide parcours qui m'amènera à dire certaines choses énormes, et je vous prie de m'excuser par avance du caractère un peu ramassé, extrêmement ramassé de ce que je vais dire sur le christianisme, pour aller encore plus loin et aller jusqu'à la modernité, jusqu'à un auteur comme Rousseau, jusqu'à la période révolutionnaire, jusqu'à Kant. J'ai vu, puisque Hervé a eu la gentillesse de me transmettre les premières leçons de ce séminaire, que les références philosophiques avaient été évoquées par le Rav, et que notamment la question du rapport entre bonheur et moralité, la vision kantienne du rapport entre bonheur et moralité avait été touchée. Donc je ne me sens pas complètement à côté de la plaque. Mais je le serai sans doute. Mais bon. Alors, ce qu'Aristote nous conduit à considérer, c'est le fait que le bonheur ne se pose comme idée, comme représentation, que pour l'homme, en fait. Et pour la raison suivante. C'est que pour poser quelque chose comme le bonheur, il faut avoir l'idée d'une fin de l'activité qui soit une fin par soi, une fin qui tienne toute seule, hein, une fin qui ne soit pas soutenue par autre chose qu'elle-même. Et, dit Aristote, ça, il y a un seul vivant, un seul être qui est capable de concevoir une fin par soi et de tendre vers une fin par soi, c'est l'homme. C'est ce que l'homme recherche et c'est ce qui le distingue parmi les autres vivants. Le fait donc de rechercher une fin par soi. Une fin autosuffisante, une fin qui se suffit à elle-même. Si on analyse cette idée, on a en fait deux exigences qui apparaissent pour que tienne justement l'idée d'une fin par soi. Il faut que ce ne soit pas une fin pour autre chose, et donc que ce ne soit pas une fin reconvertible comme un moyen, hein, reconvertible en un moyen. Donc il ne faut pas que ce soit une fin dans un parcours où on pourrait poser une autre fin plus loin que cette fin-là et dont cette fin-là serait le moyen. Bon, ça c'est la première idée. Et il y a une deuxième idée qui est un peu plus difficile à cerner, et en fait c'est quand même cette deuxième idée qui va être absolument décisive pour cerner ce que veut dire fin par soi. C'est une fin par soi, qui n'est pas liée à une activité particulière. Alors, c'est, en fait, je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile à penser dans le concept de bonheur. Ça, c'est son indétermination. On le sent bien. Hein, c'est quelque chose qu'on vise sans le nommer et en intégrant à sa valeur le fait qu'on ne puisse pas exactement le nommer. Hein, c'est-à-dire comme si le fait qu'il reste relativement indéterminé faisait partie de sa valeur. Alors, Aristote dit, cette indétermination comme source de valeur, ça tient à une raison essentielle, qui est que le bonheur n'est pas un bien lié à une certaine activité. Et l'homme est le seul être qui pense à quelque chose de ce type. Un bien qui soit donc pas un bien reconvertible en un moyen pour un autre bien, ça c'est la première idée, et qui ne soit pas non plus un bien lié à une activité particulière. On ne peut pas donner un portrait de l'action qui produirait ou procurerait le bonheur. Alors, pour comprendre la façon dont cette conception du bonheur peut être soutenue, je crois qu'il faut réinscrire cette vision du bonheur dans la représentation grecque des êtres vivants, en général. En général. Des êtres vivants en général et plus encore des êtres en tant qu'ils font partie du cosmos, en tant qu'ils font partie du monde. C'est ça qui nous est le plus difficile en fait à saisir quand on se tourne vers la pensée grecque. Hein, et c'est de là qu'il faut partir en réalité. Enfin, c'est l'idée que les êtres que nous sommes, pas seulement nous les hommes, mais les autres êtres, font des parties d'un tout. Et que ces parties sont affectées d'une certaine fonction. La totalité du monde, la totalité qui forme le cosmos, est une totalité fonctionnelle. C'est une totalité fonctionnelle, ça veut dire deux choses, ça. Ça veut dire d'abord que c'est fermé, on peut en faire le tout. Et ça veut dire ensuite que c'est ordonné. Que chaque être remplit une certaine fonction dans le tout en relation avec les autres êtres, selon la place qui lui est assigné dans un ordre. D'accord. Alors, ça, la vision grecque va le décliner sur plusieurs niveaux. Ça vaut pour la totalité naturelle, ça vaut pour le cosmos, mais ça vaut aussi pour la cité, ça vaut pour le corps humain, ça vaut pour l'âme elle-même. La structure de l'âme est un petit cosmos. On va avoir la même structure d'ordre à chacun de ces niveaux. Il y a un ordre du monde où les êtres trouvent leur place. Mais comment trouvent-ils exactement leur place? C'est ça le problème. Ils ne sont pas immédiatement à leur place. Cette place, ils vont l'occuper et l'occuper de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire en remplissant leurs fonctions. Ils trouvent leur place en accomplissant pleinement leurs fonctions, c'est-à-dire en réalisant leur essence. Ils sont faits pour être ce qu'ils sont, mais ils ne le sont pas encore pleinement sans agir, hein, de façon à réaliser cette essence. Ils doivent donc faire, le seul devoir qui leur incombe, c'est de faire ce pourquoi ils sont faits, et donc occuper la place dans ce monde qui les enveloppe et qui leur donne leur sens d'être. Alors, en quoi ça concerne le bonheur? Ben, ça ne concerne pas immédiatement le bonheur, mais ça concerne immédiatement le concept de bien. Avant de concerner le bonheur, ça concerne le bien. Le bien, qu'est-ce que c'est? Le bien, c'est le fait pour un être d'atteindre sa fin, de s'achever, de trouver exactement sa place, de réaliser exactement sa fonction. D'aller vers sa fin et de la toucher, de l'atteindre. Les Grecs, c'est pas du tout, ne pensent pas du tout l'imperfection du monde. Ils pensent vraiment que le monde et chaque être dans le monde est capable de perfection. Et donc que la fin n'est pas seulement visée, mais qu'elle est susceptible d'être touchée. Qu'un être peut être achevé. Qu'on peut passer de l'être en puissance à l'être en acte. Et si le concept de divinité a un sens chez les Grecs, c'est toujours comme ce qui est pleinement en acte, ce qui est pleinement réalisé, ce qui a atteint complètement sa fin, c'est-à-dire qui s'est vidé de tout être en puissance. Alors, à quoi dans cette vision du monde tend l'homme? Ben justement, ce que va dire Aristote, et c'est le premier à le dire aussi clairement, il tend au bonheur. Il tend au bonheur. C'est-à-dire qu'il tend à un genre de fin qui ne correspond qu'à lui. On ne pourra jamais dire d'un animal qu'il est heureux. Jamais. On ne pourra pas non plus dire, vous le verrez plus loin dans ma démonstration, d'un enfant qu'il est heureux. Parce qu'il est en puissance. Il est en puissance. On pourra le dire d'un certain type d'homme. On verra les conditions requises pour qu'un homme puisse être dit heureux dans cette vision. Alors, pour que cette définition du bonheur soit applicable à l'homme, il faut donc qu'il y ait un bien des biens. Il ne faut pas que le bien soit lié à une activité particulière, mais il faut qu'on ait l'idée d'un bien au-delà des biens. La question que se pose Aristote, c'est, il y a deux solutions. Soit cette idée de bien des biens est produite par une analogie entre les différents biens. Hein. Soit, il y a vraiment un bien des biens. D'accord ? C'est pas simplement en comparant les différents biens relatifs aux différentes activités, hein, que émerge comme ça l'idée générale sans contenu d'un bien. C'est que il y a vraiment quelque chose au-delà de tous les biens relatifs à chaque activité. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un bien des biens ou est-ce que c'est un pur mirage? Ça, c'est une bonne question pour prendre en charge l'indétermination du bonheur. Est-ce qu'on rêve le bonheur sur fond de ces biens qu'on atteint dans nos différentes activités, ou est-ce que ça n'est pas complètement un rêve, mais c'est un bien substantiel qui, au contraire, vient colorer, déterminer comme des biens, les biens que nous atteignons dans nos différentes activités. C'est complètement différent. Hein. Là, il y a deux, il y a une alternative. Et dans cette alternative, Aristote, il va choisir. Et non, il y a un souverain bien. Il y a vraiment un souverain bien. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas par pure analogie entre nos différentes activités, entre nos différentes actions réussies, hein, que nous rêvons le bonheur. Alors, tout ce que j'ai dit jusque-là concerne l'homme en général. Hein. Cela dit, parler de l'homme en général pour les Grecs, c'est sujet à caution, en fait. Il ne va pas de soi d'admettre que les Grecs aient vraiment eu l'idée de l'homme en général. Et il ne va pas de soi qu'ils aient eu l'idée de l'homme en général pour la raison que je vous ai dite. Si chaque être est à sa place, affecté d'une position et d'une fonction particulière, qu'est-ce qui va constituer l'humanité commune, hein, du cordonnier et du boulanger, hein, du joueur de sitar et du prêtre? Qu'est-ce qui va les unir en une commune humanité? Les Grecs n'ont pas l'idée d'humain en un sens générique, mais ils ont l'idée que l'homme est tout de même qualifiable comme un certain type d'animal, comme un certain type de vivant. Animal politique et animal raisonnable, doté de raison et vivant politiquement, nécessairement politiquement. Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. L'unité politique qu'il forme, cette cité, c'est un cosmos à son niveau. C'est un monde à son niveau, ordonné. Son activité psychique, son âme, elle aussi est ordonnée. Ce qu'on va appeler raison, il va falloir le décrire comme une structure avec différentes parties dotées de différentes fonctions. Donc la cité est homologue au cosmos. Elle aussi donc est ordonnée selon des rapports où chacun réalise son essence, trouve sa place, tend donc vers la perfection de son être. Et là on retrouve nos différents biens. Hein, on peut dire que le cordonnier atteint sa fin, hein, la fin de sa fonction, lorsqu'il a réalisé pleinement ce pour quoi il était fait, c'est-à-dire lorsqu'il a bien exercé son métier, lorsqu'il a produit une œuvre achevée de cordonnier. Donc il a atteint un bien. Est-ce qu'on va dire qu'il est heureux parce qu'il a atteint ce bien? Non, dit Aristote, on ne va pas dire qu'il est heureux. Néanmoins, ne peut être heureux qu'un homme dans sa fonction. Ah, c'est ça l'idée. Voilà. Il faut en passer par une certaine activité. Mais ça n'est pas le bien de cette activité qu'on va appeler le bonheur. Dans le corps humain, même problème. L'œil est l'organe fait pour voir. La vision est un bien. Bien voir est un bien. La vue est une fonction qui prend sens dans le système général du corps. Alors pour les hommes de la cité, c'est pareil, chacun tend vers un point de perfection qui est la pleine réalisation de sa fonction. Pour tout art, on a un bien particulier. Hein, on se moque que le cordonnier joue bien de la sitar. C'est pas en tant que joueur de sitar qu'on attend de lui qu'il réalise sa fin. Alors on ne dira pas est heureux celui qui fait bien ce qu'il a à faire, mais néanmoins, il faut qu'il fasse bien ce qu'il a à faire pour pouvoir prétendre au bonheur. Tout homme, dans sa place, à sa place, vise le bonheur, c'est-à-dire quelque chose qui passe peut-être par le bon accomplissement de la fonction, mais qui ne s'arrête pas au bon accomplissement de la fonction. Qu'est-ce qu'il vise alors? Alors voilà la réponse d'Aristote. Il vise un état, un bien, au-delà des biens particuliers. Cet état peut se définir comme autosuffisant. Cet état autosuffisant, il est transcendant par rapport aux fonctions sociales. Il est au-delà des fonctions sociales. Il se rapporte alors à quoi? Il se rapporte, dit Aristote, à une certaine pratique de l'âme, pratique de l'esprit. Il se rapporte à ce qu'il va appeler la vertu. Ce que découvre chaque acteur particulier dans le fait de viser un bien et de l'atteindre, c'est en lui la vertu. Et cette vertu, en elle-même, elle est un bien. En elle-même, elle est un bien. Elle devient même, lorsqu'on l'atteint de façon récurrente, un état stable. L'homme se découvre vertueux. Il découvre qu'il y a quelque chose de bon, non pas dans le bien substantiel qu'il a atteint, mais dans le fait de le viser comme il l'avait visé. Il devient vertueux, c'est-à-dire qu'il atteint une certaine perfection dans le fait même d'agir. C'est une perfection, pardon, qui est liée non pas à l'activité particulière, mais à sa forme d'activité. Et ça, dit Aristote, ça implique une certaine disposition de l'âme, un certain type d'activité de l'âme elle-même. Quelle partie de l'âme? Puisqu'on a toujours ce problème à chaque fois de savoir quel équilibre hein, on a entre les parties d'un tout. Bien dit Aristote, la partie intellectuelle de l'âme. Et plus précisément encore, la partie de l'âme qui agit sur la partie désirante de l'âme. La partie de l'âme qui sait dresser les désirs, qui sait les ordonner, et qui sait donner un sens à la vie pratique. Alors, je vous donne la définition aristotélicienne du bonheur. Activité de l'âme conforme à la vertu. C'est l'excellence du côté de l'âme qui réfléchit ses désirs, qui réfléchit ses passions et arrive à les ordonner en une activité vertueuse. Alors, ce portrait grec du bonheur nous permet de définir cet état hein, avec plusieurs conditions. Pour qu'il y ait bonheur chez les Grecs, donc, un, il faut qu'il y ait une cité. Il faut donc qu'il y ait un dispositif fonctionnel hein, où les activités sont reliées entre elles et visent des biens. Un milieu de vie où la vertu est possible. Il faut une bonne politique aussi. C'est-à-dire il faut des relations entre les individus suffisamment pacifiques, stables, pour que ces activités puissent être menées de concert et que chacun puisse réfléchir son activité de façon vertueuse. Mais tout ça, ça ne nous dit pas du point de vue du sujet, du point de vue de celui qui agit, hein, du point de vue de l'homme particulier, les conditions requises. Admettons une vie trop courte pour apprendre la vertu. Est-ce qu'on pourra dire que l'homme accède au bonheur si sa vie est trop courte, s'il meurt trop tôt? Non, dit Aristote. Une vie trop courte empêche d'atteindre le bonheur. Réponse très claire. Deuxième possibilité, une vie trop malheureuse, tout simplement. C'est-à-dire une vie soumise aux aléas de la fortune, à des événements tragiques, à des malheurs. Dans le texte, ce qui est cité, ce sont les malheurs de Priam, hein, un homme vieux, hein, Priam, le roi de Troie. Un homme vieux qui a eu une vie heureuse jusque-là, est-ce qu'il peut perdre le bonheur hein, quand à la fin de sa vie, il est frappé par la fortune? Bien, Aristote dit oui, même un homme vieux qui a été heureux, il peut perdre le bonheur. Priam meurt malheureux. Son état donc n'a pas été suffisamment stable, en tout cas, il n'a pas résisté au coup de la fortune. Et vraiment, il est frappé par le malheur. Et donc il faut une certaine conciliation, vous voyez, des événements. Si la fortune est trop hostile, le bonheur se perd. Enfin, dernier point que je voudrais souligner sur cette vision grecque, c'est que vous voyez, le bonheur n'est jamais pensé comme un état collectif. Hein? Ce n'est pas un état collectif. Pourtant, les Grecs pensent l'homme comme animal politique. Hein? Le bonheur a besoin de la cité, mais ça ne veut pas dire que la cité est heureuse. D'accord? C'est bien l'homme là. C'est pour ça que le bonheur est un concept très intéressant à travailler. Je vous remercie de m'avoir fait faire. Parce que, au fond, c'est le concept qui conduit, qui oblige, qui contraint l'exégète à toucher l'individualité chez les Grecs. Ce qui n'est pas facile, au fond. Parce que les Grecs pensent très peu à la fois en termes d'individualité et très peu en termes d'homme en général. Or là, avec le concept de bonheur, on a un concept qui spécifie l'homme parmi les vivants et qui touche des singularités, qui qualifie des destins singuliers. Mais ça veut dire qu'il faut se débarrasser complètement d'une idée qu'en réalité, nous, modernes, on a dans la tête. Et je vais essayer de vous faire une généalogie des raisons pour lesquelles on l'a dans la tête, qui est que le bonheur est un état collectif, auquel d'ailleurs les sujets ont un certain droit. Comment cette idée nous est venue que le bonheur est comme ça un état général, hein, comme une atmosphère dans laquelle chacun pourrait aller chercher ou aurait droit d'accès depuis la position qu'il occupe? J'ai une hypothèse là-dessus, je vais vous dire comment. Il y a un très bon historien, qui est un collègue que j'aime beaucoup, Alain Bourreau, tu vas connaître Alain Bourreau, hein, bien sûr, qui lui soutient, et je pense qu'il a raison, que cette idée-là de bonheur est née au XIIe siècle. Bon, je vous expliquerai un peu ces idées plus loin. Mais il explique ça de façon très simple et très frappante. Il dit, à partir du XIIe siècle, on peut poser la question comment ça va. On peut poser la question comment ça va. Et dit, regardez, quand vous posez la question comment ça va, on trouve spontanément puéril, déplacé, une réponse littérale. la réponse à comment ça va, spontanée, c'est ça va. Oui, bien. Bien. À moins d'une intimité particulière où, effectivement, la singularité est remise à l'honneur. Et évidemment, on répond littéralement. Non, ça va pas, ou oui, ça va, mes moyens, etc. Mais le fait d'avoir introduit cette strate de discours où comment ça va sert de lien général où les singularités ne sont pas présentes, ça c'est une idée, soutient Bourreau, qui est relativement récente dans l'histoire de l'Occident, hein, et d'ailleurs qui dépend, c'est l'hypothèse que je vais essayer de développer, d'une rupture par rapport au grec et d'un certain travail de fond du christianisme.
Juste une question.
Ouais. Effectivement difficile. Bon, d'abord, l'esclave a une fonction. L'esclave a une fonction. Donc, il y a un bien de l'activité de l'esclave. De ce point de vue, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il y a bonheur au sens que j'ai donné, activité de l'âme conforme à la vertu ? Alors, la réponse aristotélicienne, c'est non pour une raison éducative. C'est que ça, c'est un point sur lequel je n'ai pas insisté parce que je n'ai pas le temps de... C'est que, évidemment, là, le bonheur s'apprend dans ce cadre-là. Le bonheur s'apprend. Hein? Parvenir à travailler son activité de telle sorte à en faire ressortir la forme comme activité vertueuse, hein, est un processus éducatif. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'enfant n'est pas heureux. Alors, ceux qui n'accèdent pas à ce procès, cette action sur soi dans un développement éducatif, ne peuvent pas être inscrits dans la visée du bonheur. Ah, bien sûr, très important. Très important. Très important, mais je ne peux pas parler de tout. Je dois faire les Grecs et ensuite le christianisme et puis après Rousseau. Alors, non mais tu as entièrement raison. Ah, un dernier point avant de quitter les Grecs, sur lequel je veux aussi insister, c'est que là, le bonheur est lié à un certain plaisir. Il y a un affect propre à l'activité vertueuse, il y a un plaisir de soi. L'homme bon prend plaisir à être bon. Alors c'est évidemment un plaisir particulier. Quel genre de plaisir ? C'est un plaisir qui ne dépend pas d'un objet. C'est un plaisir qui est immanent à l'activité. Et c'est un plaisir qui n'est pas en conflit avec d'autres plaisirs, dit Aristote. Il faut essayer de penser ce que peut être une jouissance, hein, qui ne serait pas en conflit avec d'autres jouissances. Il ne faudrait pas renoncer à autre chose ou combattre autre chose pour accéder à ce type de jouissance. Oui, immanent à l'activité. Non, je dis pourquoi immanent à l'activité, c'est parce qu'on ne peut pas le poser comme un objet extérieur, dépendant d'un objet extérieur à l'activité elle-même. Il faut que ce soit la forme de l'activité. Alors, je précise, effectivement, transcendant par rapport à la particularité de l'activité. Oui. Oui. Mais immanent à la forme de l'activité. D'accord. Voilà. Alors, cette construction, cette vision, ce mode de vie, hein, après tout parce que c'est un mode de vie, a été renversée par le christianisme. Alors, je dis bien par le christianisme et je ne pense pas par le judaïsme. Parce que le propre du christianisme, c'est d'avoir été expressément dans un rapport dialectique par rapport à la Grèce, c'est-à-dire d'avoir vraiment voulu renverser cela. Je ne crois pas du tout qu'on puisse dire ça de judaïsme. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le christianisme ? Ce qui se passe avec le christianisme, c'est plusieurs choses d'abord, mais rassurez-vous, je ne vais pas dire complètement, seulement des généralités sur le christianisme, puisque je vais commenter un passage d'Augustin, enfin, je vais vous parler d'Augustin un petit peu précisément. Mais là, je suis obligé de commencer par certaines grandes hypothèses sur le moment chrétien. Avec le christianisme, la visée, cette tension à l'intérieur de laquelle se donne le bonheur, la visée est traduite en termes d'espérance. Et l'espérance réfère, pointe vers, le salut plus que le bonheur. C'est la substitution du salut au bonheur qui, ici, va attirer notre attention. Du coup, l'effet, vous allez voir, c'est que la question de la vertu va être complètement redéfinie. C'est pas qu'on va renoncer à la vertu, hein, mais c'est que le concept de vertu va avoir une toute autre forme. Alors, je vais vous parler un instant d'Augustin et du grand texte d'Augustin. Enfin, il y en a plusieurs grands textes d'Augustin, mais de ce grand texte politique qui est La Cité de Dieu. Alors, La Cité de Dieu, c'est un texte de circonstance, en fait. Un texte écrit, poussé par les événements historiques. Et poussé par un événement historique majeur qui est le sac de Rome. Donc la chute de Rome. La chute de Rome qui avait suscité dans le monde de l'Antiquité tardive une grande critique adressée aux chrétiens. C'est la faute des chrétiens. Si tout ça est arrivé, si Rome est tombée, c'est la faute des chrétiens. C'est les chrétiens qui ont déserté les dieux de la cité, hein, les dieux protecteurs, les dieux tutélaires, qui se sont tournés vers ce dieu-là, et surtout qui ont conçu le salut comme un salut tourné vers l'autre monde, hein, désertant les tâches et les devoirs relatifs à ce monde-ci. Rome est tombée, et c'est la définition même du malheur humain. Pour les païens, mais aussi pour les chrétiens. Alors il faut que les chrétiens répondent. Et ça, c'est la cité de Dieu. La cité de Dieu, c'est la réponse des chrétiens à l'accusation païenne d'avoir été responsable de la chute de Rome. C'est ça le sens de ce texte. Alors, la question posée, c'est ils pratiquaient mal, ou ils nous ont empêchés, ou ils ont introduit le ver dans le fruit, hein, ils ont introduit ils ont troublé la pratique de la vertu. Les conduites gangrénées par les chrétiens, les conduites dans la cité ont été néfastes, mortifères, et elles ont conduit à affaiblir Rome jusqu'à la chute. Alors, qu'est-ce que c'est bien pratiquer la vertu? Là, on n'est plus dans la Grèce, on est dans la vision romaine. Et la vision romaine, de ce point de vue, a conservé une certaine conception grecque, et la définition de la bonne pratique politique commune, c'est celle de Cicéron. C'est celle de Cicéron, et c'est celle-là que discute Augustin dans la Cité de Dieu. C'est dans le De Republica de Cicéron. Qu'est-ce qu'un peuple bien constitué, hein, ou une société où on peut vivre heureux? Qu'est-ce que c'est? C'est, la définition de Cicéron, c'est intérêt commun. Il faut qu'il y ait des intérêts communs et des rapports de droit consentis. Iuris consensu. Des intérêts communs et des rapports de droit consentis. Et donc, il n'y a de société heureuse possible que si on a des rapports de droit on a une certaine pratique de la justice. Et c'est ça que les chrétiens ont mis à terre. Hein. C'est cette pratique de la justice. Alors là, Augustin répond. Ah oui, mais attention, qu'est-ce que vous entendez par justice? Qu'est-ce que vous entendez par justice? Donc il va chercher chez Cicéron lui-même la définition de la justice. Qu'est-ce que les Romains même entendaient par justice? Ils entendaient par justice, si on prend la définition cicéronienne toujours, on reste dans Cicéron, De Republica Cicéron, hein, rendre à chacun ce qui lui revient. C'est ça la justice. C'est à chacun sa part. Donc on retrouve bien l'écho, hein, de cette disposition des êtres à leur place, hein, rétribuer dans leur place, selon ce qu'ils méritent, hein, en fonction de la position qui est la leur dans un ordre du monde. Alors Augustin dit, ah, mais comment appeler? Donc j'accepte cette définition. J'accepte cette définition. Mais alors je la retourne sur Rome païenne. Sur la Rome païenne. Et je demande, comment appeler justice une cité où on donne, donc on attribue, à des faux dieux, à des démons, à des idoles, hein, des parts. Bref, comment appeler juste une cité où on accomplit des sacrifices à de faux dieux? Il n'y a pas de justice possible, hein, quand il y a de faux dieux. Alors c'est ça le renversement chrétien. À partir du moment où on conçoit les sacrifices comme des sacrifices à de faux dieux. Alors, évidemment, ça va impliquer une redéfinition du sacrifice dans le christianisme. Hein. Mais à partir du moment où on attribue des sacrifices à de faux dieux, on ne peut pas dire qu'il y a de la justice. Oui, mais alors là, il faut insister. Est-ce que le christianisme va avoir une définition alternative de la justice? Et là, on a dans le texte un moment qui est extrêmement périlleux, où Augustin accepte une transaction, il change de mot. Il dit, on ne va plus parler de justice. On ne va plus parler de justice pour parler d'une cité vraiment, vraiment heureuse, c'est-à-dire d'une cité de Dieu. On va parler d'amour. On va parler d'amour. Ce qui fait que les hommes vivent peuvent vivre heureux ensemble, c'est le fait qu'ils aiment un même Dieu. Ils aiment un même Dieu. Mais il faut encore que ce Dieu soit vraiment le vrai, c'est-à-dire qu'il soit digne de cet amour. Il faut donc que dans cette cité, on ait une pratique de chacun où ce qui se détache de commun, hein, c'est pas de la vertu, hein, c'est pas le fait de bien agir, hein, c'est le fait, au fond, d'agir pour une même raison, qui est l'amour de Dieu, et qui est l'amour du seul Dieu. Alors ça conduit Augustin à radicaliser son opposition à la Grèce, en fait. Ça l'oblige, en réalité, à quitter cette vision ancienne dont je vous ai parlé. Parce que ça l'oblige à dire que les vertus en elles-mêmes ne construisent rien. La forme des activités ne représente rien de substantiellement valorisé. Ce qui représente la vraie valeur, c'est le fait, à travers nos activités particulières, de penser à autre chose, de viser autre chose, de viser, alors non pas un bien des biens, hein, mais notre abolition, notre disparition en ce Dieu que nous aimons tous, que nous sommes tous censés aimer. Alors l'amour, si vous voulez, c'est un concept qui est à la fois un concept opposé à la vertu et un concept opposé à la justice. Donc il ne s'agit pas du tout d'assurer une situation d'équilibre cosmique. Mais il s'agit de marquer le caractère transcendant du salut. D'où la définition de l'Ecclésia, la définition de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église au fond, sous cet angle de questionnement? Est-ce que c'est un endroit où les gens vont être heureux? Question simple. Est-ce que c'est un endroit où on va être heureux? Est-ce que c'est un endroit où on va atteindre le bonheur? Non. C'est un endroit où on va viser le salut. Ce qui est tout autre chose. C'est-à-dire que c'est un endroit où on va faire don de soi, dans le corps de la communauté. Au fond, ce qui est le substitut des sacrifices, alors là j'aurais beaucoup de questions à poser, si un jour on a le temps, sur la fin des sacrifices, justement, dans la période post-exilique, à partir du moment où la pratique des sacrifices ne peut plus se faire dans le judaïsme. Mais ce qui est clair dans le christianisme, c'est que le sacrifice chrétien demeure. Il y a un sacrifice qui demeure. C'est celui qui se confond avec l'Église. L'Église, le sacrement, en réalité, dans l'Église, hein, c'est le substitut du sacrifice. On ne donne pas à une idole, on ne donne pas à un dieu tutélaire, mais on se donne, hein, comme disait Augustin, la communion a deux sens. Hein, c'est l'abolition du fidèle dans le corps du Christ. Hein, le corps du Christ, c'est l'Église elle-même. Et c'est l'ingestion du corps du Christ dans chaque fidèle. C'est l'Eucharistie. Et c'est deux mouvements, hein, qui sont deux mouvements sacrificiels, en fait, hein, qui constituent la véritable visée chrétienne du salut. Alors, je veux bien marquer l'opposition avec la Grèce, là. L'opposition avec la Grèce, c'est que dans une religion de salut, on ne cherche pas la perfection du tout. Pas du tout la perfection dans une forme, la perfection dans une activité. On ne cherche pas du tout l'achèvement d'une essence. On cherche au contraire à quitter une nature. Et du coup, le mot bonheur va subir une longue éclipse. Le daimonia grec va subir une éclipse. Et c'est, alors là, j'en viens au livre de Bourreau. Alors, le livre de Bourreau, c'est La religion de l'État, son dernier ou avant-dernier livre, je crois, qui nous explique très bien que cette éclipse prend fin, ou en tout cas, on peut dire qu'elle prend fin, entre le XIIe et le XIIIe siècle, au moment où la scolastique, les penseurs chrétiens, Thomas, pensez à saint Thomas, vont être amenés à remettre le bonheur dans le jeu. Mais plus du tout sous la forme grecque. Comment? Eh bien justement, à partir du moment où on peut s'adresser ces questions-réponses, comment ça va? C'est-à-dire, comme l'idée d'un État, non plus individuel, hein, mais collectif, auquel les hommes ont droit. Et Bourreau va jusqu'à dire, en fait, c'est ça qui va culminer, hein, avec la Révolution française. Entre le XIIe et le XIIIe siècle et la Révolution, il y a un fil, alors avec, évidemment, beaucoup de sinuosité et de déviation, hein, mais dont on pourrait restituer la continuité. Ça a supposé d'abord la rupture avec les Grecs, et d'autre part un travail interne au christianisme, hein, où une certaine idée de bonheur terrestre, hein, va pouvoir se formuler parallèlement, hein, à la visée transcendante du salut. C'est là que le bonheur se lie, par exemple, à félicité. Félicité. C'est-à-dire, en fait, à fécondité. Alors, pourquoi est-ce que ce déplacement s'est fait? Ce déplacement s'est fait parce que le renoncement à l'idée d'un bonheur en ce monde n'était pas tenable. Et que dans l'histoire de l'Église, le fait que la seconde venue, donc la parousie, soit indéfiniment retardée, obligeait d'aménager de plus en plus solidement le temps intermédiaire. On ne peut pas attendre indéfiniment, tendu vers ce salut, en renonçant au bien terrestre. Alors, l'Église, progressivement, est obligée de construire des arguments qui permettent de supporter cette attente. C'est plus dur d'attendre la seconde venue que d'attendre la première. Parce que attendre la seconde, il semble que c'est vraiment injustifiable, hein, qu'il ne soit pas de nouveau là comme il l'a été. Toujours Bourreau, dans ses séminaires, c'était très drôle. Il disait, c'est quelqu'un de très drôle, Bourreau. Je ne sais pas si tu le connais, non. Il disait, imaginez, en fait, les chrétiens construisent des cathédrales. Ils construisent des cathédrales, et en fait, dans leur idée, ça devait être l'équivalent de camping, puisqu'il fallait pouvoir le démonter aussi vite qu'on l'a monté. Alors comment a pu venir cette idée de construire des choses aussi massives et aussi indémontables, hein, pour ce qui aurait dû être le pur transitoire, hein? Comment le transitoire prend la forme de l'éternel? C'est là vous avez le mystère, hein, du christianisme. Ben, parce que les églises ne sont là que dans l'attente de la seconde venue. Et la seconde venue, initialement, elle devait venir très très... Enfin, elle devait venir, en tout cas. Vous savez, c'est la phrase de Loisy qui a provoqué tant de débats, la phrase de ce théologien chrétien. Nous attendions le royaume, et c'est l'Église qui est venue. Effectivement. Bon, alors... pour vous montrer le caractère très difficile dans lequel se trouve le christianisme, je vais prendre un cas très intéressant philosophiquement qui me porte alors un peu au-delà de mon arc, parce que j'ai prévu de finir par la lecture d'un texte de Rousseau, mais je vais vous parler de Kant un instant. Je vais parler de Kant. Parce que Kant, c'est très intéressant. Bon, évidemment, là, on est dans le protestantisme, vous me direz, mais je n'entre pas dans... Le protestantisme radicalise d'une certaine manière le problème augustinien, hein, qui est ce problème où, entre vertu, hein, et salut, il y a hiatus. Hein. Ce n'est pas en accomplissant correctement une vie juste, hein, qu'on peut tenir les rênes, qu'on peut avoir quelques prises, hein, sur le salut. Le salut est dans l'au-delà, hein, c'est Dieu dans l'au-delà qui répartit, qui donne les places, hein, qui établit la vraie hiérarchie. Et il est évidemment hors de question que dans la pratique des vertus, nous ayons quelque assurance, hein, de venir occuper la bonne place. C'est le même problème que chez que chez Augustin, à savoir que le salut est vraiment transcendant. Alors Kant est un immense philosophe et il développe une théorie de la religion qui est très intéressante et qui a même beaucoup intéressé de vrais, des penseurs juifs éminents, au point que Hermann Cohen a pu y reconnaître la vérité du judaïsme. Alors, je ne discuterai pas de la lecture d'Hermann Cohen, mais je voudrais que vous saisissiez la force de la proposition kantienne. Donc Kant, vous voyez, je lui fais jouer dans mon histoire un rôle un peu ambigu, à la fois le rôle d'un représentant extrême de la contradiction chrétienne, et celui qui porte ces contradictions peut-être à son point tragique, au point que le judaïsme lui-même peut y reconnaître quelque chose d'appropriable. C'est en tout cas ce qu'Hermann Cohen a réussi à faire dans sa lecture de Kant. Point de dire que seuls des juifs pouvaient être vraiment des vrais kantiens. Bon. Je ferme la parenthèse sur Hermann Cohen. Que dit Kant? Kant assume le fait qu'il y a rupture, il y a hétérogénéité entre moralité, pratique de la vertu et bonheur. Et donc, que nous ne sommes vraiment plus grecs. Il dit oui, mais alors, si il en va ainsi, comment faire tenir tout de même la moralité? La coupure donc de la vertu et du bonheur, elle est définie chez Kant de la façon suivante. La vertu, pour Kant, peut être expliquée de façon rigoureusement philosophique, c'est-à-dire laïque. Elle est obéissance, pas à Dieu, mais elle est obéissance à la loi morale. La vertu, donc cette forme de l'action à laquelle déjà pensait Aristote, ne doit pas être définie dans les termes aristotéliciens, mais dans les termes justement où Hermann Cohen entendra le Deutéronome, dans les termes d'un impératif catégorique, c'est-à-dire d'une loi de mon action que je puisse ériger en maxime universelle. Toute action morale accède à la moralité, mérite le nom de devoir, si je peux élever la maxime de mon action jusqu'à l'universalité. Cet accès de l'homme dans son esprit, dans ce que Kant appelle sa raison pratique, c'est de la pratique, mais c'est vraiment de la raison. L'homme est capable de rejoindre dans la raison pratique cet universel et en faire le principe de son action. Ça veut dire une chose, ça. Ça veut dire, si c'est universel et que c'est rationnel, que ce principe de mon action est indépendant de tout intérêt particulier. Et donc, indépendant de toute détermination affective particulière. L'affect étant ce qui me particularise. S'il y a un moteur affectif dans mon action, je peux être sûr que j'ai dérogé au devoir. Donc, c'est là que Hermann Cohen va concentrer sa lecture, justement. Je ne peux pas m'empêcher de parler d'Hermann Cohen, parce que ce que va voir Hermann Cohen de très fort dans cette épuration kantienne du devoir, c'est la rupture avec tout motif sensible. Il y a en l'homme une capacité d'action où toute motivation affective particularisante peut être écartée. Donc, aucune compromission de la sensibilité avec la sensibilité. C'est cela le vrai concept de devoir. Mais alors, ça veut dire effectivement que le bonheur ne doit pas entrer en ligne de compte quand j'accomplis mon devoir. Je ne dois certainement pas viser le bonheur, collectif ou individuel, peu importe, si je veux accomplir mon devoir. Je dois viser simplement, formellement, l'accès à cette universalité de la maxime de mon action. C'est ça qu'on va appeler moralité. Alors évidemment, j'ai un sentiment quand même. Kant ne dit pas qu'il n'y a pas de sentiment qui coexiste avec cet accomplissement du devoir. C'est quoi le sentiment qui persiste? C'est le respect. Le seul sentiment qui peut coexister avec un acte moral, c'est le respect. Et c'est quoi le respect? Est-ce que c'est un moteur? C'est pas un moteur. C'est un écho. C'est l'écho de la loi morale dans ma sensibilité. Évidemment, j'agis. Ma sensibilité est engagée. Elle recueille quelque chose de l'écoute de la loi. Et ce qu'elle recueille à titre sensible, c'est le respect. Mais Kant ne nie pas qu'il y a alors un gros problème. C'est celui, pas de l'absence de visée de bonheur. Ça, il arrive à tenir la démonstration que le bonheur n'est pas essentiel à l'accomplissement de l'acte moral. Mais c'est le fait de résister au scandale du malheur. Enfin, c'est en fait un point dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. On aurait pu passer par là d'ailleurs. J'aurais pu faire l'histoire du christianisme en passant par ce point. C'est Job. C'est Job. Comment rendre acceptable le malheur du juste? Et comment rendre acceptable le bonheur du méchant? Comment, pas simplement la disposition approximative des bonnes places selon la justice, des bonnes rétributions selon la justice, mais carrément la négation de la justice est acceptable par l'homme? Bref, c'est la question de l'indignation là qui est en cause. Et Kant est très sensible à cette question de l'indignation. Il dit, le problème de l'indignation, c'est qu'elle est désespérante. C'est qu'elle risque de produire du désespoir. Elle risque de faire que les individus, même s'ils veulent agir par devoir, n'ont pas la force d'agir. Voyant la justice bafouée, ils sont paralysés. Et introduire le désespoir dans l'action, il n'est pas possible de l'accepter. Alors, Kant a recours à une stratégie. Il nous dit, eh bien, le bonheur existe. Ça n'est pas quelque chose que nous visons dans l'action morale, mais c'est un postulat de la raison. Un postulat. Ce n'est pas un principe. C'est un postulat. C'est quelque chose qu'on est conduit à postuler. C'est-à-dire que ça va arriver. Le monde sera meilleur. On est obligé de le postuler pour agir moralement. Ça, encore une fois, j'insiste sur le point 1. Ce n'est pas que cette idée agisse comme principe de l'action morale, c'est qu'elle doit accompagner comme un postulat l'action morale pour qu'elle puisse s'effectuer. Donc il me faut postuler le souverain bien, le bonheur, comme un indémontrable et surtout comme un simple appui extérieur à ma moralité, juste pour ne pas désespérer. Pour soigner, si vous voulez, le désespoir des êtres humains. Alors ça, ce qui apparaît avec Kant comme une conséquence de la rupture chrétienne par rapport à la Grèce, si vous voulez, c'est un bonheur thérapeutique. Un bonheur thérapeutique. Le postulat est thérapeutique. Il vient comme un pansement pour supporter qu'en ce monde il y ait de l'injustice, et que surtout, c'est ça le problème, hein, c'est pas seulement qu'il y ait de l'injustice, mais c'est que nos actions justes, hein, n'ont pas le droit de viser une amélioration. C'est ça le problème. Elles doivent poser comme principe l'universalité de la loi. C'est tout. Elles ne doivent pas viser, hein, un état meilleur. Alors, Kant dit, bon, il faut que je me représente quand même l'histoire de façon cohérente pour inscrire ces actions morales dans un devenir cohérent. Il faut que je postule pas seulement le bonheur, mais il faut que je postule un progrès collectif quand même. Et donc que l'histoire a un sens. Que l'histoire a un sens et qu'elle va vers le mieux. Donc, je dois ajouter au salut dans l'au-delà, hein, non pas un salut ici-bas, ce qui serait pour le christianisme une hérésie, hein, mais une amélioration graduelle dans l'histoire. Grand problème. Est-ce que mes actions participent à cette amélioration? Kant dit, individuellement, j'ai pas le droit de le penser, ça. Mais collectivement, j'ai le droit. J'ai le droit de me faire l'idée que les conséquences secondaires de nos actions morales vont vers le mieux. Et donc que l'histoire est censée si nous agissons tous moralement. Et c'est difficile, hein, c'est scabreux comme démonstration. On n'est pas donc dans le salut dans l'au-delà, mais on n'est pas non plus dans un bonheur ici-bas dont on pourrait goûter le fruit. Hein. On est dans une confiance dans le progrès. Ça, je crois que c'est ça que le christianisme le plus abouti nous lègue à titre de bonheur. Une confiance dans le progrès. Je crois qu'il faut lui en savoir gré. Confiance dans le progrès. Kant, c'est un grand penseur de l'histoire. Alors, je fais un pas en arrière et je finis par la lecture de ce texte de Rousseau. Alors, pourquoi j'ai pris Rousseau? Mais parce que Rousseau, c'est un penseur qui a pleinement conscience de l'impossibilité dans laquelle le christianisme a plongé la conceptualisation du bonheur. Et qui connaît bien les Grecs. Qui connaît bien les Grecs. Et qui essaye, dans les temps modernes, de retrouver un sens subjectif, appropriable, éprouvable, sensible, du mot bonheur pour chaque individu. C'est pour ça que je voulais terminer par lui, parce qu'au fond, c'est le seul que je connaisse, dans la modernité, à nous dire, ben voilà, je peux vous en donner une définition, et je peux vous expliquer comment un individu particulier est susceptible de l'éprouver. Dans un contexte chrétien, dans un contexte historique qui est celui que le christianisme a éclairé, dans un contexte non grec. C'est pas un retour à la Grèce, mais c'est une solution pour éprouver le bonheur, hein, alors qu'on a quitté les Grecs. Alors, vous allez voir que Rousseau est chrétien, bien sûr, enfin chrétien, oui, protestant, chrétien, il a oscillé entre les deux religions, évidemment c'est un Suisse. Vous allez voir, on va parler de la Suisse là, puisqu'il est, c'est un bonheur, le bonheur pour lui ne s'éprouve vraiment qu'en Suisse. J'ai pensé à vous parce que je me souviens que vous aimiez beaucoup passer des moments en Suisse, je vous avais dit ça. Hein? C'est vrai, citoyen de la République de Genève, mais est maltraité par sa propre cité. Mais enfin, bon, j'ai intitulé cette partie Le bonheur suisse en votre honneur. Bon, cela dit, c'est pas exactement à Genève qu'il l'éprouve, c'est sur une île. Oui, vous connaissez le texte. Hein, c'est la cinquième rêverie, oui. C'est ça l'acte de Vienne. Alors, il paraît que l'île où il l'éprouve n'existe plus, elle a été recouverte, je sais pas. Mais bon. Alors, Rousseau est chrétien au sens précis que j'ai donné à ce terme dans mon exposé, c'est-à-dire qu'il travaille le concept d'amour. Il travaille à partir du concept d'amour et pas à partir du concept de justice. Mais il le travaille d'une manière laïque, d'une manière anthropologique. Il n'est plus augustinien dans la définition du concept. C'est pas l'amordéi qui supporte son concept d'amour. Ce qu'aime l'individu naturellement, pour Rousseau, c'est lui-même, donc il s'aime lui-même, et ça n'est pas mauvais. Ça n'est pas mauvais, c'est même le socle de toute vertu pour Rousseau. Il s'aime lui-même, c'est-à-dire qu'il aime la vie qui est en lui. C'est ce que Rousseau appelle l'amour de soi, qui est un principe de conservation naturelle, qui est foncièrement bon pour lui. Alors, l'amour de soi, c'est un concept naturel très difficile à cerner chez Rousseau parce qu'il s'oppose à un concept qui est très proche et qui en est, en un certain sens, l'opposé, qui est l'amour propre. Qui est l'amour propre. L'amour de soi, c'est le contraire de l'amour propre. Alors, là aussi, je vais vous demander une attention à une distinction conceptuelle qui paraît infime, mais qui en fait est grande, comme toutes les vraies distinctions conceptuelles. L'amour de soi, c'est un sentiment relatif à soi-même qui est absolu. C'est-à-dire qu'on s'aime soi-même sans comparaison, sans se penser relativement à un autre. L'amour de soi, c'est pas du tout le fait de se préférer soi-même. C'est s'aimer absolument, sans comparaison. Et l'amour propre, au contraire, naît à partir du moment où il y a société. Ce qui, pour Rousseau, est toujours vecteur de déchéance. À partir du moment où, donc, un propre se définit et qui ne peut se définir que par comparaison. Le propre, l'amour propre, c'est là la source de tous les maux de la société. Le raisonnement comparatif va nous emporter dans un ensemble de vices que Rousseau ne cesse de dénoncer. Le fait de se préférer, de vouloir s'élever au-dessus des autres, etc. Tout cela nous fait quitter cette disposition amoureuse à l'égard de soi-même, qui était l'amour de soi. En suivant l'amour de soi, le développement de l'amour de soi, on peut aller, dit Rousseau, jusqu'à la vertu. C'est-à-dire, d'un point de vue rigoureusement chrétien dans l'esprit de Rousseau, c'est-à-dire d'un christianisme qui est celui du vicaire savoyard, on peut aller jusqu'à l'amour de l'humanité. C'est possible. Cet amour de soi est suffisamment compréhensif pour envelopper l'humanité. Et donc pour honorer le message christique, selon Rousseau. Par contre, quand on suit la ligne de l'amour de soi, on passe forcément à la société et aux vices que la société comporte, engendre. Alors, étant donné que l'homme est voué à vivre en société, Rousseau est moderne. Il prend en compte le fait que les hommes vivent en société. Est-ce à dire qu'il est voué au malheur ? Est-ce à dire qu'aucun bonheur ne lui est accessible et qu'il lui faut seulement espérer en agissant moralement comme le voudra Kant, puisqu'il écrit après, une vingtaine d'années après. Non, Rousseau croit quand même à un certain bonheur, même pour cet individu qui a connu l'expérience sociale. Il croit à un certain bonheur parce qu'il l'a éprouvé lui-même. Et donc, il donne un témoignage. Il dit en avoir fait l'expérience et être toujours capable de l'éprouver de nouveau dans la cinquième promenade des rêveries du promeneur solitaire. Il l'a éprouvé donc dans cette petite île sur le lac de Vienne, l'île de Saint-Pierre. Et je vous lis ce passage, je le commente au fil de ma lecture. Hein. Je n'ai pas fait assez de photocopies, je suis désolé, mais je le lis à voix haute et je commente. Comme je disais au Raph, c'est beaucoup plus facile que des passages de la Guémara. Donc je pense que vous pouvez entendre et comprendre en même temps, ce qui n'est pas trop le cas quand on lit la Guémara. Alors, tout est dans un flux continuel sur la Terre. Rien n'y garde une forme constante et arrêtée. Vous voyez comme on n'est pas en Grèce là. Il n'y a pas d'achèvement dans l'accomplissement des êtres. On est dans un flux. Ça va, ça vient. Et nos affections qui s'attachent aux choses extérieures passent et changent nécessairement comme elles. Toujours en avant ou en arrière de nous, elles rappellent le passé qui n'est plus, ou préviennent l'avenir qui souvent ne doit point être. Il n'y a là rien de solide à quoi le cœur puisse attacher. Aussi n'a-t-on guère ici-bas que du plaisir qui passe. Pour le bonheur qui dure, je doute qu'il y soit connu. À peine est-il dans nos plus vives jouissances un instant où le cœur puisse véritablement nous dire « Je voudrais que cet instant durât toujours. » Et comment peut-on appeler bonheur un état fugitif qui nous laisse encore le cœur inquiet et vide et qui nous fait regretter quelque chose avant ou désirer encore quelque chose après? On voit le problème. Donc le bonheur va se définir dans une certaine position temporelle. Hein. Il va falloir qu'on ne regrette pas et qu'on ne désire pas autre chose que l'instant présent. Donc le plaisir, si le bonheur emporte avec lui un plaisir, doit être différent de ce plaisir déchiré entre un instant passé et un instant projeté au futur. On retrouve donc cette idée, vous vous souvenez, d'un bonheur suffisant, hein, autarkeia, chez les Grecs. On va essayer de construire la même idée dans un contexte non grec. Mais s'il est un état où l'âme trouve une assiette assez solide pour s'y reposer tout entière et rassembler là tout son être sans avoir besoin de rappeler le passé ni d'enjamber sur l'avenir, où le temps ne soit rien pour elle, où le présent dure toujours sans néanmoins marquer sa durée et sans aucune trace de succession, sans aucun autre sentiment de privation ni de jouissance, de plaisir ni de peine, de désir ni de crainte que celui seul de notre existence, et que ce sentiment seul puisse la remplir tout entière. Donc un sentiment d'existence qui pourrait remplir l'âme tout entière. Voilà la définition du bonheur. Il faudrait retrouver dans le simple sentiment d'exister quelque chose d'assez large pour remplir l'âme tout entière. Tant que cet état dure, celui qui s'y trouve peut s'appeler heureux, non d'un bonheur imparfait, pauvre et relatif, tel que celui qu'on trouve dans les plaisirs de la vie, mais d'un bonheur suffisant, le voilà, parfait et plein, qui ne laisse dans l'âme aucun vide, qu'elle sente le besoin de remplir. Tel est l'état où je me suis trouvé, souvent, à l'île de Saint-Pierre, dans mes rêveries solitaires, soit couché dans mon bateau, que je laissais dériver au gré de l'eau, soit assis sur les rives du lac agité, soit ailleurs, au bord d'une belle rivière ou d'un ruisseau murmurant sur le gravier. Bon. De quoi jouit-on dans une pareille situation ? De rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et de sa propre existence. Donc jouissance de sa propre existence, de rien d'autre que soi. Tant que cet état dure, on se suffit à soi-même comme Dieu. Très important. Le sentiment de l'existence dépouillée de toute autre affection est par lui-même un sentiment précieux de contentement et de paix qui suffirait seul pour rendre cette existence chère et douce à qui saurait écarter de soi toutes les impressions sensuelles et terrestres qui viennent sans cesse nous en distraire et nous troubler ici-bas, et en troubler ici-bas la douceur. Mais la plupart des hommes, agités de passions continuelles, connaissent peu cet état et ne l'ayant goûté qu'imparfaitement, durant peu d'instants, n'en conservent qu'une idée obscure et confuse qui ne leur en fait pas sentir le charme. C'est là la phrase que je voudrais que vous ayez en tête. Il ne serait pas même bon, dans la présente constitution des choses, qu'avide de ces douces extases, ils s'y dégoûtassent de la vie active dont leurs besoins toujours renaissants leur prescrivent le devoir. Donc ce n'est pas un état que Rousseau conseille, en fait, à tout le monde. C'est très important. Hein? Parce que ça pourrait détourner, là de ce point de vue, Rousseau anticipe Kant. Ça détournerait les individus de ce qu'est leur devoir. Mais un infortuné qu'on a retranché de la société humaine et qui ne peut plus rien faire ici-bas d'utile et de bon pour autrui ni pour soi peut trouver dans cet état, à toutes les félicités humaines, des dédommagements que la fortune et les hommes ne lui sauraient ôter. C'est le bonheur comme dédommagement c'est-à-dire, voyez, une des formes de cette thérapeutique dont je vous parlais tout à l'heure, hein, que Kant lui a projetée sur le plan d'une histoire collective, hein, Rousseau le projette comme, hein, ce qui peut venir dédommager l'individu que la fortune a jeté, hein, dans une solitude et une position d'inactivité où il n'est plus même en position de faire son devoir. Alors, maintenant, c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention, c'est sur la suite. Il est vrai que ces dédommagements ne peuvent être sentis par toutes les âmes, ni dans toutes les situations. Il faut que le cœur soit en paix et qu'aucune passion n'en vienne troubler le calme. Il y faut des dispositions de la part de celui qui les éprouve. Il en faut aussi dans le concours des objets environnants. Donc il faut là aussi des conditions précises pour qu'il y ait disposition bonne. Alors écoutez, c'est là que je vois l'essentiel. Il n'y faut ni un repos absolu, ni trop d'agitation, mais un mouvement uniforme et modéré qui n'ait ni secousse ni intervalle. Sans mouvement, la vie n'est que léthargie. Si le mouvement est inégal et trop fort, il réveille. En nous rappelant aux objets environnants, il détruit le charme de la rêverie et nous arrache d'au-dedans de nous pour nous remettre à l'instant sous le joug de la fortune et des hommes et nous rendre au sentiment de nos malheurs. Un silence absolu apporte la tristesse. Il offre une image de la mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, je vois dans ce texte quelque chose de très dangereux pour la vision chrétienne, c'est que le bonheur, le vrai bonheur, ne doit surtout pas être projeté dans la mort. C'est-à-dire que la question du salut dans l'au-delà, hein, est écartée. D'accord ? Le bonheur est le fait de s'approcher de l'état du mourant, hein, sans tomber dans son inertie. Ça ne peut pas être un repos de ce type. Ça doit être un mouvement de la vie, hein, un sentiment du mouvement de la vie, au plus près du repos éternel. Mais surtout pas, évidemment, de l'ordre du repos éternel. Alors, ce que je vois dans ce texte de Rousseau, aussi, c'est une solution peut-être plus audacieuse encore que celle de Kant, pour récupérer quelque chose de l'ordre du bonheur dans un monde non grec. Solution très audacieuse, puisqu'on va au plus proche du lieu où le christianisme avait posé que les hommes seraient sauvés, hein, ce qui était une manière de régler pour le christianisme la question du bonheur, sans y tomber. En se tenant sur la frontière, en quelque sorte. Et c'est ce que Rousseau va appeler la rêverie, hein, cet état de repos où les mouvements de l'âme, hein, sont perçus comme des mouvements insensibles au plus loin des agitations de la cité terrestre, hein, qui quant à elle est source nécessairement de malheur. Alors, regardez que je n'ai pas inventé cette interprétation. Ce mouvement qui ne vient pas du dehors se fait au-dedans de nous. Le repos est moindre, il est vrai, mais il est aussi plus agréable quand de légères et douces idées, sans agiter le fond de l'âme, ne font pour ainsi dire qu'en effleurer la surface. Alors, où est-ce que... Excusez-moi, je cherche le passage. Oui, bon, c'est un état, donc je cite d'après ma propre citation, c'est un état où on commerce d'avance avec les intelligences célestes dont on espère aller augmenter le nombre. On commerce d'avance avec le repos des morts, mais de ces morts dont on ne fait pas partie. Donc on récupère quelque chose du bonheur dans un monde non grec. Voilà. Voilà l'exposé que je vous avais préparé. Il y avait un bonheur d'une activité normale dans la vision grecque. Vision grecque. Ah non. Non. C'est-à-dire que une activité normale est forcément plongée dans le bruit. Ouais. Dans le bruit. Dans le bruit du monde et dans cette condition misérable, en fait, qui conduit à se comparer. Alors, est-ce que, il y a une question qu'il faudrait poser, est-ce que une société bien constituée selon le contrat social, tel qu'il l'a rêvé, mais tel qu'il a voulu mettre en œuvre dans certaines conditions, notamment donc à Genève, est-ce qu'une société telle que le contrat social rend les hommes heureux? Je me suis posé la question, j'ai cherché les occurrences du bonheur dans le contrat social. Et au fond, non. Non. Pourquoi ? Parce que le contrat social correspond exactement à ce que Kant décrira très bien. C'est-à-dire une condition politique où les hommes accomplissent effectivement leur devoir, se soumettent à l'intérêt général, qui est quand même le représentant juridique de la loi morale. Hein, mais au fond, s'interdisent à eux-mêmes de viser un état heureux. Enfin, parce que, visant un état heureux, ils réinjectent de la particularité dans un dispositif qui doit l'en avoir expulsé. Alors, ce que je ne vous ai pas décrit, qui était un peu le sujet auquel j'avais pensé au tout début de l'année, mais il me semble que vous l'avez vu quand même apparaître, c'est la façon dont la Révolution française va remettre cette question en jeu. Parce qu'au fond, le paradoxe de la Révolution française, c'est d'avoir tenté de faire du bonheur une condition commune dont l'accès serait juridique. C'est-à-dire que une bonne constitution devrait régler juridiquement l'accès au bonheur. De bonnes institutions, en tant qu'institutions, devraient être capables de produire le bonheur. Vas-y.
Moi, c'est une question ponctuelle, mais
Vas-y, vas-y. Non, je m'éclaircis la voix. Écoute, c'est la question de la querelle d'Augustin et de Pélage, en fait, hein, ce qui se rejoue sans cesse au Moyen-Âge, tu sais bien, et jusqu'à la Réforme, hein, jusqu'à Calvin, en passant par Port-Royal. En fait, le christianisme s'en est jamais sorti avec cette question de la rétribution et du fait de savoir si... le fait d'accomplir une action garantit un accès au salut, détient des garanties de salut. Hein. Ce qui est important avec Augustin, c'est que justement l'enjeu est posé. Non, non, dit Augustin contre Pélage, hein, non, vous ne pouvez pas savoir, hein, que telles actions vous garantissent le salut dans l'au-delà. Et là, vraiment, ça marque un paradigme chrétien. Alors après, ce paradigme, le problème, c'est qu'il est insupportable. C'est ce que j'ai essayé de vous dire. Et c'est pour ça que, au XIIe siècle, la question de bonheur est formalisée, d'une certaine manière, comme un bonheur collectif possible dans la cité terrestre. Mais cet insupportable, c'est la tension augustinienne, et je crois que c'est la tension chrétienne. Je crois que c'est plus pertinent de partir, si tu veux, du christianisme comme disjonction entre la vertu et le salut que de partir du christianisme comme ayant essayé d'établir une table de correspondance. Mais tu as entièrement raison. Tout le problème du Moyen-Âge va être de ménager des passerelles, de garantir une certaine lisibilité, parce que c'est intenable. Et je crois que c'est intenable parce que le christianisme a réglé, comme il a réglé, la question de la justice. Je crois que c'était ça le point fondamental. C'est pour ça que je voulais commenter ce texte d'Augustin, ça se trouve au livre 20 de la Cité de Dieu, hein, où il discute Cicéron. Il dit, ce concept de justice, c'est pas possible, en fait. Avec la justice, je construis pas une bonne cité. Il me faut un concept plus fort, et la caritas va servir de concept de substitution, en fait. Ouais. Ah, et le bruissement de l'eau. Ouais.
Comment dans sa vision du bonheur, de cette rêverie, il peut continuer
avez raison, il y a quelque chose d'autarcique là. Hein. L'île, lui-même, etc. Ce qu'il essaye de retrouver dans l'expérience qu'il fait du bonheur, c'est un rapport à soi-même hein, qui ne dépende plus du tout hein, de relations sociales. Donc, coupure, effectivement, ou suspension de rapport à soi médiatisé par le regard des autres, hein, et un rapport à soi-même où ce qu'il rejoint en lui, c'est ce qu'il appelle l'existence, hein, le sentiment d'existence, le pur sentiment d'exister, la vie. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce qu'il y a de chrétien là-dedans? Je crois que ce qu'il y a de proprement chrétien, c'est le fait justement que ce sentiment d'existence ne puisse pas se penser simultanément comme une existence dans un monde, hein, articulé à d'autres existants, hein, différents de lui et en relation avec lui. Ce que les Grecs pensaient immédiatement sous la forme du cosmos, c'était le fait que les existants ne pouvaient pas se percevoir eux-mêmes sans s'inscrire dans une position, d'accord ? Sans se représenter dans un ordre. Là, chez Rousseau, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Il y a le retour sur soi par abstraction de ce qui, en termes d'ordre terrestre, est forcément agitation, comparaison, trouble, malheur. Oui, mais alors dans alors, le concept d'amour, d'abord le concept d'amour. Après, je vous répondrai sur la question du salut. Le concept d'amour, il est présent parce que ce rapport à soi-même est un rapport affectif à soi-même. C'est pas un rapport rationnel à soi-même. L'amour de soi, c'est vraiment de l'amour. Et le geste intéressant de Rousseau, c'est d'avoir essayé de situer l'amour de soi quasiment au même niveau, vous avez vu, que l'amour de Dieu. Hein. Je me sens comme Dieu. Alors, ça correspond à un état très avancé de la réflexion chrétienne, hein, sur le sentiment du divin. Avec Rousseau, mais déjà avec certaines conceptions des réformés, justement, hein, on a une définition de la conscience comme instinct divin, ce que Dieu a déposé en nous pour sentir Dieu, pour éprouver Dieu. Hein, chez Rousseau, c'est très net, définition de la conscience dans la profession de foi du vicaire savoyard, instinct divin, instinct de Dieu. Donc, c'est de l'ordre, c'est instinctivement, j'ai en moi la possibilité de sentir Dieu. C'est très important ce concept, parce que c'est le concept qui sert de levier à l'opposition de la réforme à l'Église catholique. Puisque c'est ce qui permet aux réformés de dire que l'accès à la révélation ne passe pas par l'interprétation et par des intermédiaires de la conscience. Donc là, de ce point de vue, Rousseau rejoint l'acte fondamental de la réforme, hein, ce qu'il appelle la sainte réformation. La réforme est très forte pour lui parce que c'est vraiment un accès direct à Dieu. C'est la ligne directe. Sans médiateur et sans prêtre. La religion des prêtres étant toujours, de ce point de vue-là, sociale. Hein. Donc, cette dimension chrétienne, elle est très présente dans ce sentiment d'existence. Hein. Elle est présente en raison, je vous disais, de la rupture avec la représentation cosmologique grecque, mais elle est aussi présente dans cette subjectivation. Vous avez raison, hein, c'est bien la construction d'un sujet qui est en cause là. Mais c'est la construction d'un sujet qui a quand même besoin d'un support théologique. Il faut qu'il puisse se dire, c'est comme Dieu l'est, je le suis. Mais, c'est là que je vous amenais sur une frontière plus dangereuse. C'est la question du salut. Le problème, c'est que le christianisme garantit le salut dans l'au-delà. Hein, dans l'au-delà. Donc, ça ne peut pas être, ce bonheur ne peut pas être le salut. Mais il doit se porter au plus près de ce que le salut serait. Et la seule solution que Rousseau a, c'est alors de le faire ressembler à la mort et de dire, c'est le sentiment de la vie, ça. Vous voyez ? Il faut que ça soit au plus près d'un repos, hein, sans être le repos. Oui. J'ai pas parlé de la souffrance là, vous avez. Exactement. Alors c'est l'intégrité de l'humanité. En lui-même, ouais. Dites-moi où. Alors, je comprends, mais je n'utiliserai pas le mot de comparaison. Je vais vous dire pourquoi. Là où vous touchez quelque chose de très juste que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a bien dans ce sentiment de la vie un partage, en fait. C'est-à-dire que je vais retrouver en moi, dans le sentiment d'existence, le seul moyen de me relier aux autres, hein, de façon à en faire mes égaux. Donc, c'est en ce sens-là que ce n'est pas tout à fait un raisonnement comparatif, hein. C'est plutôt un raisonnement égalisant. Nous sommes tous des existants, nous sommes tous des dépositaires de la vie. Nous avons tous en nous l'instinct divin, etc. Et ça, c'est pour ça que je vous disais que l'amour de soi est le seul vecteur possible pour atteindre l'humanité. Le problème Rousseau, vous savez, c'est un problème. En fait, c'est la question de Rousseau, comme la question kantienne, c'est une question au fond politique. C'est-à-dire, c'est la question, hein, de l'introduction d'un droit humain, hein, dans un contexte d'État distinct, de société politique distincte, qui se font la guerre et qui sont voués, pour Rousseau, à se faire toujours la guerre. La guerre ne pour Rousseau, alors que pour Kant, le projet de paix perpétuelle est formulable avec les conditions que je vous ai données là, c'est aussi la manière kantienne de rétablir l'idée d'un état de paix perpétuelle au niveau international. Chez Rousseau, non. Chez Rousseau n'y croit pas. Par contre, ce à quoi il croit, c'est à la possibilité du sentiment d'humanité, pour le sentiment d'humanité, de se répandre. Ça n'abolira pas politiquement la guerre, parce que du moment que nous formons des sociétés, nous sommes amenés à nous replier sur des valeurs particulières, hein, et à quitter l'humain. En fait. C'est pour ça que la société est inhumaine pour Rousseau, de ce point de vue. Mais nous devons vivre dans cette condition. C'est pour ça qu'il reste, il est plus radicalement augustinien, en ce sens que jamais la cité terrestre ne sera tranquille. Hein. Elle n'atteindra pas en tant que cité ce que Dieu a promis. Mais néanmoins, c'est vrai, l'humanité nous est accessible par ce biais. Simplement, j'insiste, je ne pense pas que ce soit une comparaison. Je pense que c'est une égalisation. Alors, en même temps, c'est une égalisation extrêmement sélective, comme vous avez pu le noter, puisque il faut avoir, il faut le déconseiller. On peut pas le conseiller à tout le monde. Hein. On peut pas le conseiller à tout le monde parce qu'on quitterait le plan du devoir, des activités, etc. Alors, pour répondre à votre question sur la question, est-ce que les gens agissent normalement, c'est Kant qui est le plus intéressant là de ce point de vue. C'est Kant qui est le plus intéressant parce qu'il distingue deux choses. Il distingue les activités communes, dans lesquelles il dit l'important c'est d'avoir toujours présente l'écho de la loi, dans ce respect, ce sentiment du respect et l'effectivité de la raison pratique. Bon. Mais ça ne doit pas nous amener à nous imaginer que le résultat de nos actions, ce serait d'être heureux. Ça ne doit pas nous imaginer que le résultat de nos actions vise l'amélioration même de la condition générale. Simplement, écoute ton devoir et c'est tout, reste dans ton activité particulière, orientée selon ton devoir. Mais c'était ça le... Tu dois néanmoins penser que des conséquences indirectes, donc qu'il y aura une espèce d'harmonie par en haut, les conséquences indirectes de ton action seront organisées de telle sorte à ce que dans le futur, ça ira mieux. Ça ira mieux pour tous, ça ira mieux pour toi. Oui. Mais ce futur, un, tu n'y accéderas pas. En fait, c'est un futur qui a un drôle de statut, en fait. Parce qu'au fond, on ne peut même pas postuler qu'une génération y accédera, vous voyez ? C'est la construction de l'idée de progrès là qui est en cause là. Et vous savez, le marxisme, qu'est-ce qu'il fera d'autre? Il dira, c'est jouable, ça peut arriver. C'est une réponse à Kant, hein, le marxisme. C'est une réponse à Kant de ce point de vue. Ouais. Je pense que le christianisme se débat avec la Grèce. C'est-à-dire que c'est peut-être, sans doute des continuités, évidemment, hein, mais je crois qu'on ne comprend rien au christianisme si on ne voit pas ce qu'il fait subir à la Grèce. Je pense que. Maintenant, je n'ai pas du tout. J'ai pas d'abord les éléments, j'ai pas les compétences pour. Inscrire le judaïsme dans cette histoire. Tout ce que je sais, c'est que le christianisme s'élabore dans le judaïsme hellénistique. Dans le judaïsme hellénistique. Je pense que être complet sur cette question, ce serait essayer de comprendre ce qui dans le geste chrétien est aussi une opposition au judaïsme. Alors, j'ai quelques... Voilà. Alors, je vais vous dire ce que je crois. En fait, je crois que c'est ce concept d'amour là qui est vraiment le levier. La construction de la communauté chrétienne, hein, c'est donc la construction de l'Église au sens que je lui ai donné là, suppose une rupture avec les liens naturels. Il y a un théologien très intéressant qui s'appelle Peterson, que Schmitt a discuté dans sa théologie politique, qui dit que le véritable opposant de l'Église, c'est le mariage juif. Alors pourquoi le mariage juif ? Il dit parce que, en fait, deux parents juifs font un juif. Deux chrétiens ne font pas un chrétien. L'alliance de deux êtres juifs produit un juif. Il y a filiation. Le christianisme introduit le baptême, et le baptême est premier des sacrements. Alors, cette création de la communauté chrétienne, elle a un prix. Pour créer une communauté de ce type, il faut produire plusieurs opérations. Et il faut croire en quelque chose, dit Peterson. Il faut croire que l'élection s'est traduite en acte d'amour. C'est-à-dire que Dieu n'a pas élu un lignage. Il a aimé alors, pas forcément tous les hommes d'ailleurs, hein. D'abord il a aimé en élisant, voilà, il a aimé en élisant, et cet acte d'amour est créateur d'une enfante par lui-même, une communauté. Donc du coup il faut répéter cet acte d'amour dans le baptême. Les juifs, au contraire, n'ont pas à répéter l'acte d'élection. L'élection a eu lieu, elle n'était pas déclinée en termes d'amour, hein. C'était une alliance, et cette alliance suffit en tant que lignage à la reconduction d'une communauté. Mais c'est pas justement une communauté au sens d'une création. Hein? Voilà, c'est un déjà là, oui, c'est ça.
Non, j'ai
pensé bien sûr. Ouais, je pensais, je me disais, est-ce quel rapport avec le Shabbat, ce repos? Ouais. Mais comment le Shabbat est pensé en rapport au bonheur? Est-ce que le Shabbat rend heureux? On est plus heureux à Shabbat?
Vraiment s'entendre libre et tout ça, loin des
Mais là, vous voyez, je n'ai pas inventé, hein. Il pense à la mort. Hein. Là, il est habité, et c'est l'ombre de la mort qui est... Qui est...
Ouais. Penser à la mort, c'est quelque chose que ça existe chez nous aussi, ouais. Mais c'est vraiment le dernier ressort.
Ouais.
Penser à la mort, c'est...
Vous disiez sur le Shabbat, vous vouliez... Justement, oui, entre le rapport entre la Grèce et la pensée juive de ce point de vue, est-ce que vous pourriez me guider un petit peu à moi un peu d'apprendre. Est-ce que vous voyez des points de discussion possibles? Cette question de l'achèvement de l'acte. Dites. Oui, oui, on est au niveau des intuitions pures là. C'est pas. Que l'espace. Oui. Non, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que le monde grec est un monde saturé. C'est-à-dire que c'est un monde, en fait, où la seule chose qui se dégage, en fait, à mon avis, c'est la philosophie. C'est-à-dire que si la Grèce a été si grandiose, c'est par l'invention de la philosophie. Comme seul espace où le cosmos connaît une fêlure et où on peut où les sujets peuvent poser des questions en fait à l'ordre du monde. C'est pour ça que la philosophie a été inouïe. Oui, je pense que vous voulez effectivement. C'était. Vous avez raison. C'est ce Mais une science, en fait, qui procède par recherche, hein, et pas par description d'état de fait. Et vous avez raison, le pythagorisme n'aurait pas été possible sans cette ouverture-là. Mais ça s'est produit dans un monde dont il faut se représenter, je crois, le degré de saturation. Les dieux sont parmi nous. Chaque instance à sa place et dans un ordre. Il faut bien donner, rétablir un équilibre, tisser sans cesse les liens, ou retisser les liens d'un monde extrêmement...
Ça, c'est la...
Alors,
la...
Et c'est rendre à chacun son dû, c'est ça ?
Remettre chacun à sa place.
Remettre chacun à sa place. D'accord.
Aux riches,
pour atteindre
le. Normalement, on devrait le remettre à flot.
D'accord. D'accord. Et il y a deux types de dons. Il y a Tzedaka et.
Le Maaser et la dîme. Une dîme.
Ouais.
Une dîme, ça, c'est un dû. Dans la Tzedaka, il n'y a pas de mesure.
D'accord.
Et on veut. Une dîme, comme son nom, c'est une dixième.
D'accord.
Ça, c'est l'argent qui n'appartient.
Et
Ce qui est certain, c'est que chez les Grecs, vous avez raison sur un point. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut dire celui-là, voilà, et il a atteint le bonheur. Il peut le perdre, hein. Il peut le perdre. C'est Priam que je vous citais. Mais oui, on peut qualifier un rapport qu'il est parvenu à instaurer avec sa propre activité, où à chaque fois il fait bien, il peut pas mal faire. Et en même temps, la fortune peut le renverser. Mais ça suppose, si vous voulez, ça suppose qu'il est atteint un certain moment de son existence, qu'il ait été éduqué. Mais vous avez raison, ça n'est pas dynamique. Alors,
s'il était dans le bonheur, pourquoi le bonheur n'a pas
soutenu. Ah oui, ça c'est une question que se pose Aristote. Effectivement, il dit, mais il aurait peut-être pu tenir. Le fait est qu'il n'a pas tenu. Il a pleuré. Et Aristote voit en fait que la fortune est plus forte. La fortune est plus forte que ce que l'homme est capable d'opérer sur lui-même. Parce que la fortune pour eux est une divinité. La fortune est une divinité. Elle peut renverser.
L'homme est, il y a quelque chose de plus fort que lui.
Oui.
On pense que le Yetzara est plus fort que l'homme. Franchement, faire le mal est plus fort. Et si Hachem ne nous aide pas, on ne peut pas y arriver tout seul.
Mais là, les Grecs pensent pouvoir y arriver tout seul. Hein. Ça, c'est. C'est-à-dire que c'est une manière différente de penser le fait d'être avec les dieux. Ah oui. Si vous voulez, la question du rapport aux dieux dans la gestion de ma vie, la conduite de ma vie. Chez les Grecs comme chez les Romains c'est encore plus clair. Vous avez la distinction entre les sacras et les auguria, les deux types d'autels. Justement, la question des sacrifices, en réalité, elle se dédouble dans la Rome ancienne. Elle se dédouble parce que la question, c'est pas seulement de rendre à chacun ce qui lui revient, donc de donner aux dieux ce qu'il attend, puisque les dieux font partie de cet ordre, ils attendent un certain sacrifice, donc il faut rétablir l'ordre du monde, etc. Mais il y a aussi le fait que les dieux nous envoient des signes. Enfin, c'est ça, les augures ou les auspices. Ça, c'est un autre autel, et c'est l'autel, en fait, où les Romains. Mais je pense que je connais moins la religion grecque, mais je pense qu'il devait y avoir quelque chose de cet ordre, qui est la lecture du destin, en fait. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais me conduire dans le temps? La question, c'est ça. Vous voyez, c'est pas seulement quand même une question rigoureusement spatiale. Il se pose le problème de... Ouais.
Et à quel moment il se libère, enfin, cette question de liberté dans cette question de bonheur, à quel moment il se libère de la prédestination, soit de son activité, de sa fonction, dans quelle mesure, même s'il accomplit sa fonction, il intervient dans le choix de sa fonction.
Ouais. Non, mais le destin, alors justement, ça c'est quand même Le destin n'a pas le sens d'une prévision au sens que nous on donnerait à ce terme. Le destin, c'est plutôt, alors, en fait ça irait dans le sens quand même de votre remarque, c'est plutôt la description approximative d'un espace dans lequel il va falloir s'orienter. Voilà. C'est une orientation. On cherche une orientation quand on cherche. Et donc, des indices pour se conduire correctement. Mais là où vous avez raison, c'est une question à poser. C'est la question de la liberté dans le bonheur. Et notamment de la liberté dans le choix de l'activité. Ce que je ne retrouve pas dans la Grèce, c'est un rapport libre aux fonctions. On a l'impression que la fonction est quand même assignée. Ça, c'est C'est bon?
Bien, merci beaucoup.
Je vous en prie, c'est un plaisir. C'est quoi la semaine prochaine? C'est l'impossible?
Non, j'ai un petit peu le thème, c'est le bonheur impossible, point d'interrogation, impossible.
À bout de quoi?